Radio Franca,
Radio Franca,
Radio Franca,
Radio Franca,
Radio Franca,
Radio Franca.
Journée relais Expo Science avec le CIRASTIL et Radio Franca, aujourd'hui 1er décembre au lycée Champollion de Figeac avec le club robotronique, monsieur Nonorg et Amandine Maïma. Amandine Maïma, vous allez vous présenter pour nous dire en quoi vous êtes doctorante.
Alors, du coup, on peut se tutoyer, je ne sais pas si c'est... Voilà, c'est une option en tout cas. J'étais doctorante jusqu'au 29 octobre et maintenant je suis docteur depuis le 29 octobre. Et donc, en quoi ça consiste ? Ça consiste à passer, à faire une thèse, à écrire une thèse, et donc à faire des travaux de recherche pendant le plus souvent 3 ans. Moi, j'ai fait 4 ans, ça arrive aussi. Et ça mène au diplôme du doctorat, qui est un bac plus 8. Et donc moi, mes recherches étaient autour de la robotique et plus particulièrement l'interaction homme-robot. Voilà.
Merci. Très bien, Amandine. Et vous, jeune Jean, qui êtes-vous ?
Donc bonjour, moi c'est Mathéo, élève de terminale au club robotronique au lycée Champollion.
Bonjour, je m'appelle Théo, je suis en seconde, je fais partie du club robotronique à Champollion.
Bonjour, moi Sébastien et je suis en première et je fais aussi partie du club robotronique au lycée Champollion.
Et du coup, moi c'est Maxime, je suis en seconde système numérique et je suis donc aussi au club robotronique à Figeac au lycée Champollion.
Et Laurent Denor, donc enseignant au lycée Champollion et responsable du club robotronique depuis maintenant 22 ans. Et il évolue chaque année un peu plus, et grâce à l'investissement des élèves qui chaque année sont présents, on essaie de le faire évoluer et suivre les technologies actuelles. Donc d'un robot tout en métal qu'on avait à l'époque, dont on faisait usiner les pièces, aujourd'hui il est en impression 3D et sans fil. Donc il évolue petit à petit, et tant mieux que les élèves soient aussi impliqués. Ça permet vraiment de faire évoluer et d'apprendre toujours encore plus.
Merci pour la présentation. Je vous laisse poser les questions à Amandine.
Donc vous êtes docteur en robotique.
Vous pouvez me tutoyer, ça, je sais pas, si ça vous dérange pas. Ouais. Bon.
Tu es docteur en robotique. Peux-tu nous dire où est-ce que tu travailles ?
Du coup, je travaille dans un laboratoire à Toulouse qui s'appelle le LAS CNRS. C'est un gros laboratoire. Je crois que c'est le plus gros ou un des plus gros laboratoires du CNRS en France. Parce que du coup, le CNRS, c'est une institution donc de recherche publique qui regroupe différents laboratoires partout sur le territoire français, même à l'international. Et donc mon laboratoire, il y a je crois 500 personnes qui travaillent. Et donc il y a des chercheurs qu'on appelle les chercheurs permanents. Donc certains sont que chercheurs, d'autres sont enseignants-chercheurs, c'est-à-dire qu'ils donnent aussi des cours à l'université ou dans les écoles d'ingénieurs. Il y a les doctorants, je crois qu'on a environ 200. Donc, c'est des gens qui font leur diplôme en 3 ans ou 4 ans comme moi, qui travaillent sur vraiment beaucoup de problématiques différentes. Il y en a certains qui sont que au LAS, mais il y en a aussi d'autres qui travaillent en partenariat avec d'autres laboratoires ou même des entreprises. Et il peut y avoir des entreprises qui embauchent un doctorant. Ils veulent travailler sur une problématique de recherche particulière et ils vont demander à un laboratoire d'apporter leur expertise et de les aider, eux et le doctorant, à développer une recherche sur un thème particulier. Et ça va au laboratoire, là, au LAS. Les sujets, ça va de la robotique aux nanotechnologies, en passant par la sécurité informatique. Voilà.
Du coup, quel est ton parcours que tu as fait ?
Donc moi j'ai fait l'INSA à Toulouse d'abord après le bac. Donc j'ai fait l'INSA en 5 ans, c'est ce qu'on appelle une école post-bac parce que on peut directement y accéder après le bac. Il y a des écoles d'ingénieurs qui sont en 3 ans et qui sont post-prépa parce que on fait 2 ans de prépa après le bac, ensuite on passe un concours et ensuite on rentre dans une école. Donc en France il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Une école d'ingénieur prépare donc au diplôme d'ingénieur. Et le métier d'ingénieur, c'est très vaste. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, quand on est ingénieur, on peut faire des trucs, un travail technique ensuite, c'est-à-dire mettre la main à la pâte selon le sujet, selon notre spécialité, ou bien on peut manager une équipe, par exemple. Donc, moi, j'ai fait mes 5 ans à l'INSA Toulouse. La première année à l'INSA, c'est général, donc tout le monde fait la même chose. Comme je ne savais pas trop quoi faire, c'était bien parce que ça m'a permis de voir un peu les différentes matières qui existaient et je me suis spécialisée au fur et à mesure. Ma spécialité finale, c'est système embarqué. Donc, vous savez ce que c'est un système embarqué ?
Absolument pas.
Bah, par exemple, le robot que vous faites, on peut dire que c'est un système embarqué parce que du coup, c'est un appareil qui est programmable et qui a une certaine autonomie, on va dire. Le thermostat chez vous, par exemple, c'est aussi un système embarqué. Un aspirateur, qu'on s'appelle un Roomba, c'est un système embarqué. Tout, n'importe quel système avec de l'électronique qu'on peut programmer et qui va pouvoir fonctionner de manière autonome en fonction, réagir à l'environnement qu'il y a autour de lui, c'est un système embarqué. Donc ça, c'était ma spécialité. Et donc à la fin des 5 ans, donc j'avais pu choisir les matières que je préférais au fur et à mesure de chaque année, on peut choisir, on choisit la spécialité et dans chaque spécialité, il y a des matières. Et, sauf qu'à la fin des 5 ans, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire ensuite comme métier, on va dire. Quel type d'entreprise, quel type de sujet, même de travail, enfin, sur ouais, quelle problématique travailler, parce que c'est assez vaste. Avec mon diplôme, je pouvais travailler dans l'automobile, l'aéronautique, dans la robotique, etc. Et donc, j'ai fait mon stage, en fait, au LAS, mon stage de fin d'études. Donc, c'est un stage qui dure 5 mois, qui permet de valider le diplôme. Et en fait, au LAS, on m'a proposé de faire une thèse à la fin du stage. Et moi, je me suis dit, quoi, moi, faire une thèse? J'ai pas du tout prévu ça. Et c'est un truc que je me suis jamais imaginé parce que pour moi, c'était que les gens trop intelligents qui faisaient ça et je me mettais pas vraiment dans cette catégorie. Et après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit qu'au final, les gens qui étaient autour de moi, qui étaient déjà en thèse pendant que j'étais en stage, bah, c'était des gens normaux au final et que bah, il n'y avait pas de raison que, en soi que bah, si eux, des gens qui me paraissaient normaux, ils font une thèse, moi qui aussi me paraissais normal, bah, je pouvais faire une thèse. Donc je me suis dit, bon, je ne sais pas quoi faire, il y a une opportunité qui m'est présentée, le sujet il est intéressant, ça, c'est une thématique qui m'intéresse, que je veux approfondir, et bien allons-y, faisons une thèse. Donc j'ai fait ma thèse en 4 ans, donc à la base c'était prévu 3, et comme j'avais envie de creuser un peu plus le sujet et que dans mon équipe il y avait assez d'argent pour me financer une 4e année, parce que du coup la thèse c'est des études, mais on est payé quand même, enfin le CNRS me versait un salaire tous les mois. Et donc, j'ai fait cette thèse en 4 ans. Et donc là, c'était la fin de ces 4 ans en octobre là, de cette année. Et voilà. Et maintenant, là, je ne sais pas. Enfin, pour la suite, je suis encore en train de réfléchir à ce que je vais faire.
Et alors ? Ah, ils sont tous abasourdis, là, par tout ce que tu as fait. Oh là là ! Ils sont sur les fesses. Ça envoie. Ça vous dit de faire la même chose ?
Pourquoi pas ?
Ah, pour le coup, j'ai déjà un projet d'avenir, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même.
Et c'est quoi ton projet ?
J'aimerais être programmeur, donc vraiment développer des logiciels, des jeux, des sites, je sais pas encore. Mais voilà, j'aimerais.
Bah, c'est une bonne piste parce que ça en manque. Genre là, à Toulouse par exemple, ils sont en pénurie de développeurs informatiques. Ils n'arrivent pas à recruter, il n'y a pas assez de gens sur le marché. Donc tu seras pas au chômage, ça c'est sûr.
Je l'espère pas.
Et Bastien, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ?
Je sais pas, c'est bien, mais ça a l'air quand même un petit peu dur de travailler 5 ans, mais bon.
Est-ce que ça t'a paru long justement, Amandine ? Comment t'as pu réussir à passer ce cap ? Est-ce que c'est comme quand on gravit la montagne, il faut regarder pas à pas ou il faut regarder le haut de la montagne ?
Moi, je suis plus du genre à regarder pas à pas, mais ça, je pense, après, c'est à l'appréciation de chacun. Mes 5 ans d'études à l'INSA, c'est passé vite. Au final, une fois que je suis arrivée à la 5e année, je me suis dit « waouh, c'est passé vite ». Donc, il y avait des moments qui n'étaient pas faciles. Il y a eu certaines années où j'avais l'impression de travailler beaucoup, tout le temps. Et certaines fois, je me suis beaucoup sentie en échec aussi, l'impression de ne pas y arriver. Après, en fournissant des efforts, au final, même si je n'avais pas forcément des notes tout le temps brillantes, bah, j'ai réussi quand même à valider mes examens. Et quand on est plongé dans la vie étudiante, les 5 ans, ça passe vite, même si des fois il y a des moments durs et tout, en fait, on n'a pas envie que ça s'arrête. C'est, sur le campus, c'est vraiment une espèce de petit village. Tu t'es entouré de tes amis tout le temps. Vous faites des soirées ensemble, des activités ensemble. Genre, à l'INSA, c'est une école où il y a, je sais pas combien, plusieurs dizaines d'associations de tout genre. Je sais pas, association de réparation de vélo, club de danse, club théâtre, club de Quidditch, club manga. Et au final, t'as vraiment de quoi t'occuper et puis apprendre de nouvelles choses, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau de tes loisirs ou de ta curiosité. Et du coup, les 5 ans, on les voit pas forcément passer. Et la thèse, c'est un peu pareil. Les 4 ans de thèse, c'est assez difficile. La thèse, c'est quelque chose où, même si on est entouré d'une équipe, parce que c'est quand même un travail en équipe, enfin, en tout cas, moi, ça l'était, on est seul à porter notre projet, notre sujet de recherche. Et c'est vraiment quelque chose de personnel. Et y a des moments où on n'arrive pas à travailler, il y a des moments où ça ne marche pas, il y a des moments où on a envie de pleurer parce que rien ne va. Mais au final, en général, on arrive toujours à rebondir sur nos pattes. Et ensuite, on voit qu'on a fourni du travail. Et quand on regarde ce qu'on a fait, on se dit, bon, c'était compliqué. Mais au final, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même un truc intéressant que j'ai fait et que je suis contente d'avoir fait. Là, pour le coup, les 4 ans de thèse, au bout d'un moment, j'avais envie que ça s'arrête. Mon contrat se termine dans 15 jours et je suis un peu triste de partir parce que c'est un laboratoire où il y a vraiment une super ambiance de travail. On a beaucoup de liberté qui nous est accordée. On a notre sujet de thèse, c'est un sujet très général. Et ensuite, quand on veut travailler sur certaines questions particulières, on peut le faire. C'est nous qui choisissons l'organisation de notre temps, on va dire, de travail. Si un jour j'ai envie de programmer, je programmer. Si un jour j'ai envie de lire de la bibliographie, je vais lire de la bibliographie. Il n'y a personne qui va me dire « Bon, aujourd'hui, Amandine, c'est journée de bibliographie. » Et moi, j'étais dans une équipe où j'avais des bons collègues et tout, donc c'était bien, même si ce n'était pas facile. Mais après, en général, les gens qui font une thèse, c'est des sujets qui les intéressent. Et en général, quand tu es intéressé par un sujet, ça rend plus facile le travail. Mais oui, il n'y a pas toujours des moments faciles, mais après, il y a des bons moments aussi quand même.
Qu'est-ce que t'en penses, Maxime ? Je vois que ça te plaisait là.
Honnêtement, un grand bravo parce que personnellement, je me vois pas faire autant d'études. Après, ça peut être très passionnant, hein, mais tout de suite dans l'idée.
Oui, après, ce que j'ai pas. Pardon. Ouais, désolé, je t'ai coupé la parole un peu. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que la thèse aussi, c'est des études, ça mène à un diplôme. Mais c'est vraiment un format différent de ce qui est en cours. L'école d'ingénieur, ça ressemble un peu comme vous au lycée. On a à peu près 30-35 heures de cours par semaine. Le soir, on rentre, on travaille chez nous. La thèse, c'est comme un travail, en fait, un peu. C'est tous les jours, moi, j'allais au travail. Mon but, c'était de développer mon système robotique. Donc, j'avais un certain nombre de tâches dans la journée que je faisais pour m'amener à ça. Et moi, le soir, j'ai fait le choix que quand je rentre chez moi, mon travail, il est fini et je ne travaille pas le soir à la maison ou le week-end. C'est arrivé quelques fois, mais pas très souvent. Et donc, on est payé, on a des responsabilités. Et je ne me suis pas, à part pour aller au cinéma où je paye le tarif moins cher, ce n'est pas forcément un sentiment étudiant quand tu es en thèse, dans le sens où tu n'es pas assis sur une chaise toute la journée à écouter quelqu'un parler. Tu n'as pas quelqu'un qui te dit les devoirs que tu as à faire pour le lendemain, etc.
Mais est-ce qu'au club Robotronic, vous n'êtes pas aussi des petits stagiaires de doctorants, là, parce que vous avez des missions. Bon, vous avez évidemment votre maître, M. Monog.
Moi, j'ai mon directeur de thèse. J'avais mon directeur de thèse aussi.
Voilà, il est votre directeur de thèse. Et quand même, le club Robotronic, c'est pas pareil ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous faites un peu la même chose, vous en rendez pas compte.
Peut-être que quand même avec le club Robotronic, ce qu'il faut réussir à faire, c'est alterner entre le club, les responsabilités du club et les cours à côté. Donc de ce que tu disais, en thèse, tu as le travail pour ta thèse. Mais je suppose que tu n'avais pas de cours à côté.
Non, on a juste un certain nombre d'heures de formation à faire sur les 3 ans, mais c'est pas beaucoup.
Mais vous avez besoin de formation, c'est ça.
Mais par contre, ce que vous faites, c'est complètement un travail d'ingénierie et un peu de recherche, parce que bah, vous avez une problématique et vous essayez d'apporter une solution, et votre solution, bah, vous partez, vous recherchez les différentes technologies qui existent pour pouvoir voir quelle est la meilleure solution. J'imagine que vous comparez soit des techniques ou des matériaux ou des produits pour voir lequel sera le mieux pour votre système, et puis vous mettez d'accord sur à quoi doit ressembler votre système, que ce soit au niveau de la programmation ou que ce soit au niveau du système mécatronique.
Alors vous allez nous expliquer chacun un petit peu quel est votre rôle.
Alors, ce qu'on fait au club Robotronique, déjà au début de l'année, on essaie de trouver des idées pour savoir comment effectuer les actions qu'on doit faire pour le robot.
Donc en fait, chaque année, on a un cahier des charges pour participer à un concours. Donc là, cette fois, c'est sur le thème Age of Bots, je crois. Donc tourné autour de l'archéologie. Et ce cahier des charges, on l'a vers fin septembre, mi-octobre. Mais cependant, on ne se tourne pas les pouces dès la rentrée. Dès la rentrée, en fait, on reprend le travail de l'année dernière. Par exemple, la manette pour piloter le robot. On va dire, voilà, comment on peut améliorer l'ergonomie de cette manette, comment on peut améliorer la prise en main, comment on peut améliorer les joysticks, la forme générale, etc. Donc ensuite, on a le cahier des charges. Donc déjà, il faut un long moment pour le déchiffrer, parce qu'en plus, c'est une version bêta du cahier des charges qu'on a à mi-octobre. Puis enfin, la version finale quelques semaines après. Déjà, déchiffrer un cahier de charges d'une centaine de pages, c'est pas donné à tout le monde.
Ouais, je l'ai vu celui de l'année dernière, ça faisait peur.
Et toi aussi, Amandine, quand tu es sur un projet comme ça, on te donne un objectif.
Oui, mais du coup, ça, le cahier des charges, ça s'apparente plus à ce qu'on voit dans l'industrie. En recherche, on va dire que c'est un peu nous qui faisons notre propre cahier des charges, dans le sens où on a une problématique, on va essayer d'y répondre, mais il n'y a pas de liste précise d'objectifs que notre système il doit remplir. En tout cas, c'est nous qui nous la donnons, parce qu'on a envie que le système qu'on développe, on pense que c'est important qu'il fasse ci ou ça. Mais rien que le fait de définir quels sont les éléments qui sont importants pour notre système, ça c'est un peu une question de recherche, où on va s'interroger sur quels sont les éléments qui devraient composer en fait notre cahier des charges. Mais c'est un travail de construction, d'élaboration, de design, en se posant des questions les points essentiels en fait qu'on a besoin. Enfin, en tout cas là pour mon système robotique, pour l'interaction robot, c'est comment le robot doit prendre en compte l'humain et comment mon système doit prendre en compte l'humain pour que le robot puisse interagir correctement avec un humain. Donc c'est très vague, et donc on est obligé de se focaliser sur un certain nombre de points, et on fait des choix qui sont certains arbitraires, d'autres on essaye de se dire là si on pense que ça c'est vraiment important. Enfin, c'est arbitraire dans le sens où on ne peut pas tout faire, donc il faut essayer de se focaliser sur un certain nombre de choses, quoi.
Excuse-moi de t'interrompre, mais il y a aussi l'aspect philosophique un peu l'appréhension de ta thématique. Parce que c'est vrai que la façon dont toi tu vas interpréter ta problématique, elle est peut-être différente de notre chercheur. C'est-à-dire que ta façon d'appréhender le concept ne peut pas être interprétée de la même manière par un de tes collègues. Donc est-ce qu'il y a une réunion, vous faites une réunion pour pouvoir vous mettre d'accord sur la définition exacte du principe à mettre en œuvre?
Oui et non, on va discuter pour essayer de se remettre d'accord sur un certain nombre de choses, mais au final, quand on fait une thèse, c'est personnel la thèse. Donc même si au final les collègues ils sont pas d'accord avec toi, comme c'est ton sujet de recherche et que tu penses que c'est la bonne façon, et ben tu vas le faire. Enfin là, nous on développe des logiciels en thèse. Si le logiciel il en a interaction avec les logiciels d'autres collègues, bah oui, il faut essayer de s'arranger que ça colle à peu près. Mais le fond du fonctionnement de ton logiciel, ça va vraiment être en fonction de tes opinions, de ton point de vue, de la manière dont tu t'es nourri, de ce que tu as lu. Et ouais, même si les gens qui travaillent avec toi ils sont pas d'accord, c'est pas grave en un sens. Ouais.
Et après, ça permet aussi donc du coup d'ouvrir un peu le. Mais c'est-à-dire que ta thèse après tu la publies. Donc elle est publiée.
Ouais, là je suis en train de finaliser. Normalement, elle sera mise en ligne d'ici quelques semaines.
D'accord. Donc après, c'est des ressources. Ça aussi, ça fait partie des ressources disponibles. Après, voilà, donc à réexploiter pour ceux qui voudront réexploiter. Alors, une thèse, c'est libre de droit ou après, il y a des obligations?
C'est juste que, en fait, à part des thèses où il y a des brevets dedans, si on veut réutiliser notre travail, la condition, c'est que ça doit être cité, que c'est inspiré de tel et tel travaux.
D'accord.
Pour ne pas s'approprier l'idée de quelqu'un d'autre. Et... tu ne peux pas dire, ça c'est mon idée qui est hyper normative si tu t'es inspiré d'un autre truc. Mais par contre, tu as le droit de dire, mon système, il est hyper novateur, il est basé sur telle idée, mais moi j'ai apporté ça en plus. Voici ce que je vous propose. En France...
Oui, mais excuse-moi.
Ouais, comme les thèses sont financées par de la recherche publique, c'est accessible en ligne pour tout le monde. Quoi.
En fin de compte, la thèse, si on veut, par principe, c'est une boîte à idées, quoi. Ça donne des ressources à plein de personnes, et donc après à d'autres chercheurs d'exploiter, d'améliorer, parce que bon, bien sûr, avec le temps, les technologies évoluent, et donc on peut améliorer une thèse de base et lui apporter le petit plus qui fait que finalement demain on développe d'autres produits on va dire avec des encore de meilleures performances. On part sur de bases qui nous donnent une direction, et après ces thèses là vont nous permettre après de rebondir vers de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts, quoi.
C'est ça, mais surtout qu'en plus la thèse, enfin 3 ans ou 4 ans au final, ça passe vraiment très très vite, donc en général on n'a pas forcément le temps d'approfondir tout ce qu'on veut, et donc après c'est la porte ouverte à celui qui a envie d'approfondir ce que nous on n'a pas le temps d'approfondir.
C'est ce que font le club Robotronic. J'ai Mariem qui va poser une question.
J'avais une question parce que certains doctorants se voient avoir des heures d'enseignement. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi ou pas?
Non, moi je n'ai pas fait parce que mes parents sont profs et je me suis toujours dit que je ne serais jamais prof. Il y a des directeurs de thèse qui obligent leurs doctorants à donner des cours, ou bien il y a des doctorants qui ont besoin de donner des cours au niveau financier parce qu'ils sont dans le besoin. Moi, ce n'était pas mon cas, donc j'ai fait le choix de ne pas donner des cours. Et après, par contre, du coup, dans les deux dernières années de ma thèse, là, j'ai eu pas mal d'investissements au niveau de vulgarisation scientifique ou d'animation d'ateliers.
Du coup, je rebondis parce que dans les investissements que tu as, tu fais partie de Femmes et Sciences aujourd'hui. Et je ne sais pas depuis combien de temps. Et aussi
depuis janvier.
Depuis janvier, ouais. Et aussi, tu faisais partie du jury des défis de la robotique.
Ouais, parce que du coup, en fait, j'ai encadré un collège pendant un an, enfin l'année dernière, de octobre à avril, enfin jusqu'à mai, ouais, pour les aider à se former à l'utilisation des robots Boombot, donc des robots qui sont développés par Planète Science, et donc pour les préparer à la compétition des défis Boombot qui a lieu le même jour que les trophées de la robotique. Et donc en parallèle, j'étais aussi l'organisatrice pour Planète Science de la partie compétition défis Boombot. Donc, il y a eu un format un peu spécial cette année, mais qui a quand même eu lieu. Voilà.
C'est bien. Alors, vous allez vous rencontrer, le club Robotronic et toi, alors, sur le trophée de la...
Alors, cette année, c'est plus moi la responsable. J'ai passé la main, mais je pense que j'essaierai de venir faire un tour si je suis là.
Donc, moi, je me disais, mais c'est bien quand il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec soi, parce que ça nous amène aussi à avoir d'autres idées. Et ça pousse un peu plus le bouchon, quoi. Est-ce qu'au club Robotronic, ça se passe aussi comme ça? Vous n'êtes pas d'accord entre vous et ça vous amène justement d'autres idées?
Pour l'instant, on a tous un petit peu chacun son propre rôle. Donc, par exemple, il y en a qui vont être sur la modélisation, il y en a qui vont être sur la programmation. Et pour l'instant, on communique pas trop entre nous. Ça va arriver, évidemment. On va commencer à tous se poser sur les mêmes enjeux, sur les mêmes problèmes. Donc là, oui, forcément, on va très certainement proposer nos idées qui seront différentes et se mettre d'accord sur un point commun.
Et alors, Amandine, comme là, ça va être bientôt la fin de notre interview, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces jeunes?
Qu'il ne faut pas se mettre des bâtons dans les roues à soi-même, qu'il y a déjà assez de bâtons dans les roues dans le monde, et donc si vous pouvez... Ne pas se dire « Ah non, mais ça, je ne sais pas trop si je peux y arriver. » C'est « Il faut essayer et sans doute que vous y arrivez. » Et après, si vous n'y arrivez pas, tant pis, mais au moins vous avez essayé. Et l'autre chose, c'est pas grave si vous faites des choix en vous disant « Ah, je suis pas sûr que ce soit le bon choix, bah, par exemple pour l'orientation. » La plupart du temps, c'est possible de se réorienter, de faire un autre choix par la suite. Et donc, un choix ne vous enferme pas forcément dans une voie. Et que même si la première voie que vous avez choisie, bah, c'est pas la bonne, entre guillemets, bah, souvent c'est formateur quand même, et c'est une expérience dont on arrive à tirer des enseignements. Voilà.
Merci. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour toi après
les... D'arriver à faire des choix pour dans ma vie.
Non, parce que là, tu dis que dans 15 jours, c'est terminé, là, au LAS, mais peut-être que tu as d'autres projets qui vont... qui sont déjà dans les malles, qui vont ressortir, ressurgir.
Ouais, bah alors là, j'ai fait le choix jusqu'à mai de rester à Toulouse pour faire de l'investissement associatif, donc continuer avec Femmes et Sciences, Planète Sciences, et là, peut-être avec la compagnie du Code. Et c'est plus ouais, pour après, il faut que je fasse un choix pour quel genre de travail je cherche pour septembre, octobre. Est-ce que je continue dans la recherche publique? Est-ce que je vais en entreprise privée? Est-ce que je reste en France? Est-ce que je reste à Toulouse? Est-ce que je vais à l'étranger?
Eh ben, on te souhaite que tu aies des réponses et que tu arrives à capter tes bonnes réponses, comme tu dis. De toute manière, on peut changer de voie et ouais. On peut, avec ses compétences, on peut gagner aussi pour aller vers autre chose.
Bon courage.
Merci. À vous aussi.
Ouais, pareil que Mathéo, bon courage.
Ouais, bonne continuation pour vos 15 prochains jours. Et puis pour la suite aussi, est-ce que vous continuerez quoi.
Merci.
Bon courage pour la suite et pour tout le travail fourni.
Et merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous pour faire ce Zoom là depuis Toulouse jusqu'à Figeac. Où il ne pleut pas, ah si, il pleut encore, mais il ne neige pas. Donc voilà, peut-être qu'un jour, Femmes et Sciences viendront jusqu'au lycée Champollion de Figeac. Et ce serait un beau projet aussi. Ouais. Comme nous.
Ouais, on aimerait bien, on attend l'invitation.
Ah, et bien voilà, monsieur Nonorgue, c'est parti. Merci à vous.
J'essaierai de venir vous voir à la Cité de l'Espace.
On serait vraiment heureux de pouvoir partager ce moment avec toi voilà, et aussi montrer notre travail. C'est vrai qu'à travers des vidéos, c'est moins évident. Mais non, je suis très impressionné du travail que tu as mené, hein, de ta recherche. Ça, c'est beaucoup d'investissement. Et c'est vrai que pour conclure là-dessus, c'est vrai que c'est quelque chose qui a changé, qui change. Hein, c'est un travail avec un objectif au niveau avec un projet. Et je veux montrer aux élèves que effectivement la réussite passe pas par forcément un niveau extrême au départ, mais simplement par déjà beaucoup de motivation. C'est ce que aussi tu as su leur montrer, de la motivation, et voilà qu'il ne faut pas perdre espoir, et il y a toujours des possibilités de réussir si on s'en donne les moyens. C'est ça qui est le plus important.
Et Mariem Ducirasti, donc, qui est organisatrice de ces journées Relais Expo Sciences et Expo Sciences à Toulouse, a un dernier mot.
Oui, alors justement, je voulais dire que si jamais tu n'avais pas l'occasion de passer à la Cité de l'Espace en mars, nous espérons fortement pouvoir réinviter et réaccueillir le Club Robotronique sur l'Expo Science 2022, qui du coup sera les 10 et 11 juin à Toulouse. Donc on espère que ça pourra se faire et qu'on pourra réaccueillir les projets en vrai.
En tout cas, merci Amandine et bravo, merci à Radio Franca, merci au lycée Champollion de Figeac, merci Monsieur Nonorgue pour votre accueil et on se dit à très vite, à très bientôt et continuons nos super projets.
Oui, merci à vous aussi d'être venu.
Merci et bonne continuation et que vous battiez les autres équipes.
Radio Franca. Radio Franca. Radio Franca. Radio Franca. Radio Franca.